FM 90.3.
Il est 11h.
Si vous voulez tout savoir pour mieux consommer, rendez-vous avec Patrick dans son émission bimensuelle le lundi de 11h à midi. Info Conso, c'est sur Côte-Sud FM 90.3.
Et bonjour, c'est un plaisir de se retrouver pour consommer, consommer, encore consommer, mais pas du tout. Consommer bien, intelligemment, d'une manière rigoureuse et non pas acheter n'importe quoi, n'importe où et pour en faire n'importe quoi. Mais c'est pas aujourd'hui le thème de l'émission. Le thème de l'émission aujourd'hui, c'est les conditions de vie. Et on s'est aperçu à partir d'une étude qu'il y avait une double peine pour les plus pauvres. Alors, il y a une étude qui a été rendue récemment. C'est l'étude de Tanks Entreprise et Pauvreté et qui est quand même intéressante parce que c'est un organisme qui réunit les acteurs publics, privés, associatifs de la lutte contre la pauvreté et le 31 janvier dernier, eh bien, elle a rendu son étude et son étude fait un petit peu frissonner. Frissonner entre guillemets, pas par le froid, mais par ce qu'on peut y lire. Alors, il y a trois discriminations tarifaires. D'abord, le logement est mal isolé parce que les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent louent, ils ne sont pas propriétaires, louent. Et s'ils louent, c'est le prix qui va déterminer un petit peu la possibilité de le faire. Et puis c'est vrai que rappelons-nous que pour une location, il faut avoir un revenu mensuel du tiers. Le tiers peut être consacré au logement. Et donc, quand vous êtes au SMIC, par exemple, à 1 500 euros, vous pouvez mettre 500 euros de location. Et c'est vrai que dans certains lieux, 500 euros, avec ça, c'est pas grand et c'est pas terrible. Donc, le logement est mal isolé. Généralement, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on a une voiture parce qu'on est obligé d'avoir une voiture pour se déplacer, pour aller travailler, pour faire des courses, etc. Et donc, généralement, cette voiture est ancienne. Elle a été achetée en seconde main et donc elle est gourmande en carburant. Et il y a aussi un autre thème, c'est quand vous êtes malade, vous évitez d'aller chez le médecin parce que c'est des frais, les restes à charge. Là, on l'a vu, les restes à charge vont doubler pour certaines choses. Pour les médicaments, pour une boîte de médicaments, je crois que ça passe de 0,50 centimes à 1 euro. Et puis pour d'autres examens, le reste à charge est passé de 2 à 4 euros. Par exemple, quand on prend une ambulance pour aller se rendre à l'hôpital pour subir des soins. Et c'est pas parce que beaucoup l'ont choisi. Donc, il y a aussi les frais d'incidents bancaires, parce que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on tire, et puis à ce moment donné, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose sur le compte, mais qu'on a la capacité d'avoir un découvert. Mais le découvert, c'est-à-dire les agios, sont très, très chers. Ça peut aller jusqu'à 16%. Et donc, quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on est obligé de faire des emprunts ou de tirer l'argent alors que le compte n'est pas fourni, eh bien, ça revient assez cher. On comprend donc que les surcoûts vont coûter assez cher aux personnes en difficulté. Pour accéder aux mêmes biens et services, 10% de nos concitoyens sont démunis, ont dû rembourser la somme, alors je vous rassure, c'est annuel, de 745 euros. Mais c'est-à-dire qu'on a fait un calcul et c'est 745 euros plus que les autres consommateurs, ça équivaut à peu près à 3 mois de leur budget nourriture. Donc vous voyez, ça ne touche pas n'importe quoi. C'est les conditions de vie à ce moment-là sont quand même difficiles. L'essentiel donc de ces surcoûts provient des frais de logement, d'énergie, de transport, d'assurance, de banque. Mais il y en a d'autres qui sont plus inattendus. L'absence, par exemple, d'un lave-linge. Eh oui, un lave-linge, c'est de l'électricité, c'est un emplacement. Et quand c'est pas grand, où est-ce qu'on le met? Puis ça s'achète et ça s'entretient. Or, dans ces cas-là, faute de lave-linge, qu'est-ce que fait la personne pour justement laver son linge? Eh bien, il va se rendre dans une laverie. Mais on sait très bien qu'une laverie n'est pas mise à disposition pour le plaisir de la population, mais aussi pour faire de l'argent. Donc ça veut dire qu'il va payer plus cher que s'il avait son propre lave-linge en allant à la laverie.
Et puis, des laveries, il me semble qu'il n'y en a pas partout.
Il n'y en a pas partout en plus, oui. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut se transporter. Mmh. Alors ça veut dire aussi que puis le linge qu'on va laver, il pèse un certain nombre de kilos. Mmh. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas forcément y aller qu'à pied. Donc il faut se rendre, ça veut dire aussi prendre les voitures, donc de l'essence, ça se rajoute. Donc ça revient plus cher, en tout cas que si on avait son propre lave-linge. Et puis, il y a un problème de motorisation. De motoriser. C'est-à-dire que les personnes sont généralement excentrées par rapport à leur lieu de travail ou leur lieu de commerce. Et par exemple, s'ils vont au centre commercial, ça veut dire que c'est de l'argent dans le carburant en plus.
Et, oui.
Et ça veut dire que ça s'ajoute à l'addition. Donc, qu'est-ce que font les gens à ce moment-là? D'abord, ils achètent peu. Généralement, ils n'achètent pas en grande quantité, mais à l'unité. Et on sait très bien que l'unité achetée vaut plus cher qu'un pack de 6 ou 7 ou 8 ou 12 éléments. Et en plus, vous ne pouvez pas vous rendre dans les centres commerciaux, faute de peut-être d'essence dans la voiture. À ce moment-là, vous avez affaire à du commerce de proximité. C'est formidable pour le commerce de proximité. Mais on s'est aperçu quand même qu'il était plus cher que si vous alliez dans une grande surface. Et il y a plus de choix.
Après, c'est vrai que le commerce de proximité rend des services quand même au quotidien parce qu'il y a des amplitudes horaires d'ouverture énormes, même parfois le dimanche. Et voilà, on peut aller acheter. On fait peut-être pas son plein au commerce de proximité, mais on va acheter
des compléments.
Voilà.
Oui, c'est, bien sûr. Ah non, mais c'était absolument pas contre le commerce non, de proximité que je voulais. Non, pas du tout, parce que ça rend service. Et en plus, les associations de consommateurs sont pour le commerce de proximité.
En plus, c'est un lieu de rencontre, c'est
tout
un lieu de vie, c'est un lieu de sociabilisation.
Oui. Même.
Même si on va, je vois le Vival à Seignos, il y a un petit coin café. Donc les gens vont prendre juste un café et tout. Donc ça amène.
Et c'est fréquent maintenant dans les petites supérettes. Alors on va pas donner forcément toujours les noms, mais c'est vrai qu'il y a un coin pour 1 euro, vous pouvez prendre un café. Alors ça fait que. Bon, un coup de pompe, je prendrais bien. Hop, c'est bien, c'est formidable. Mais c'est sûr que, par exemple, le café, qui quelquefois est offert d'ailleurs, mais il rentre dans la comptabilité du magasin. Et donc, si on ne le paye pas directement, on le paye aussi par le prix des courses qu'on va faire. Donc, c'est formidable, mais ça entraîne des prix qui sont un peu plus chers qu'ailleurs. Mais c'est vrai, proximité, gain de temps, course complémentaire, c'est vrai aussi que peu d'achats massifs, donc c'est quand même intéressant. Et donc, alors, il y a là-dessus, il faut calculer surcoût au plus près. Et donc, nos compatriotes les moins fortunés subissent trois types de discrimination tarifaire. D'abord, un effet d'exclusion. Leur localisation, comme je disais tout à l'heure, géographique, peut entraîner une surprime, par exemple, d'assurance. Et vous savez très bien que maintenant, en fonction du lieu où on habite, les tarifs des assurances ne sont pas les mêmes.
Ah ben oui, ça c'est... Oui,
parce que on s'est aperçu que dans telle zone... il y avait beaucoup plus d'accidents ou il y avait beaucoup plus de voitures endommagées volontairement ou pas. Et donc, à ce moment-là, c'est plus la même. Pour l'appartement aussi, c'est pareil. On s'est aperçu que les tarifs ne sont pas répartis à égalité sur l'ensemble du territoire. Et généralement, faut voir que les personnes qui ont peu d'argent, qui louent un logement, sont dans une situation un peu plus complexe et donc sont touchés par des tarifs qui sont un peu plus chers qu'ailleurs. En plus, l'effet est lié aussi à l'usage. Par exemple, le manque de moyens oblige l'utilisation de biens vétustes, comme des véhicules d'occasion, à fort kilomètre. Et on sait très bien qu'un véhicule à fort kilomètre pollue beaucoup plus, mais ça, limite, il n'est pas directement touché par cela, mais consomme de l'huile et consomme de l'essence ou du gasoil, peu importe, plus qu'un véhicule récent qui fait quand même, on fait attention et la consommation est quand même plus faible. Donc, mais il y a pire, c'est-à-dire que quelquefois, faute d'argent, les personnes renoncent à des dépenses de première nécessité, comme les soins. Le gosse tousse, on va attendre quelques jours pour voir si ça passe tout de suite en lui donnant un petit cachet pour la fièvre, pour la toux, puis on verra bien. Sauf que ça peut s'aggraver, ça peut se compliquer. Ça veut dire à ce moment-là qu'il faut aller chez le médecin, ça c'est sûr. Mais que peut-être qu'il va falloir garder le gosse. Or, on peut, les personnes dans ce genre de situation n'ont pas les moyens de payer quelqu'un qui va garder le gosse. Ça veut dire que c'est soit l'homme ou la femme, et généralement c'est plutôt la femme que l'homme, c'est force est de constater, fait que la personne s'absente de son travail, et tout dépend de l'organisation de la boîte dans laquelle la personne travaille, parce que par exemple, si elle est payée au service, eh ben, si elle ne vient pas travailler, cette personne, je sais pas, l'homme ou la femme, n'est pas payée. Mmh. Ou il y a le jour de carence, où par exemple, on s'absente 3 jours, le premier jour n'est pas payé. Donc en plus, il y a une perte de salaire. Donc c'est quand même un petit peu difficile à supporter. Troisième discrimination, la structuration de certains tarifs qui défavorisent les petits consommateurs en rendant les prix à l'unité, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, de mesures plus élevées. Vous achetez un élément devrait coûter plus cher qu'un achat de 12 éléments ensemble, sauf que les grandes surfaces ont un petit peu, intégré cette situation, parce que quelquefois, vous achetez, vous voyez le prix à l'unité et vous voyez le prix à 12, un pack de 12, ben vous apercevrez quelquefois que le pack de 12 est plus cher.
Oui,
qu'ils ont compris que les gens allaient naturellement sur le pack de 12, pensant que c'est moins cher, et vous apercevrez qu'à l'unité, il est moins cher. Mais ça, c'est les techniques de vente qui fait que, c'est pas terrible comme opération. Alors, revenons au logement. Et voyons les réalités. Un logement, généralement, est plus petit et mal isolé. Quand les personnes ont peu de moyens, ils louent en général un logement petit. Parce que leurs revenus ne leur permettent pas de pouvoir accéder à des logements dans la mesure où les propriétaires... Et en plus, le calcul est simple. Le loyer ne peut pas excéder le tiers des revenus. Donc vous savez, si vous êtes une famille de 4-5 personnes, de 3 enfants... à 500 euros par mois, parce que comptons sur le SMIC, 500 euros par mois, je ne sais pas si vous pouvez louer. Donc les enfants s'entassent, il y a une promiscuité, et quand même, ce n'est pas terrible. Donc généralement, le logement est plus petit, mal isolé, et loin de tout. Parce que c'est là où justement, on peut avoir des logements qui puissent correspondre au salaire de la personne. Et donc, l'étude dont je suis parti estime qu'à taille comparable, les familles modestes disposent de 0,4 pièces de moins que les autres ménages. C'est-à-dire donc nécessairement plus petits. Et de plus, ils ont une petite surface qui coûte toujours plus cher au mètre carré. Et on sait très bien qu'une petite surface coûte plus cher au mètre carré qu'une grande surface. Parce que petite, il y a tout. Il y a la cuisine qui rentre en compte, il y a la salle de bain, la salle de douche et tout, le chauffage. Et donc, il y a un investissement qui fait que petite surface revient plus cher au mètre carré qu'une grande surface. Et d'autant plus que le parc privé. Et là, c'est là où justement... On se dit qu'il est bon d'habiter une municipalité qui puisse offrir à ses concitoyens, ses administrés, des logements du parc d'habitat social. Parce que là, on tient compte aussi du revenu et certains peuvent quand même bénéficier d'un logement qui soit agréable à vivre par rapport au fait qu'ils n'ont pas forcément les moyens par rapport au parc privé. En moyenne, d'ailleurs, cela engendre une double peine de à peu près 135 euros par an. Donc, vous voyez, déjà tout à l'heure, il fallait ajouter à peu près 745. Là, si on ajoute 135 par an, eh bien, et en plus, si on rajoute le fait que le logement bouffe des calories de chauffage assez extraordinaires, la facture peut s'élever en moyenne, à 2262 euros à l'année. Donc la note, c'est le cas de dire, est quand même importante. Et si la note est importante, eh bien ça nous conduit normalement, à écouter une chanson.
À Haussegor, j'écoute Côte des Femmes, 90.3.
Capricorne ou du cancer, souvent. Dans quel pays, dans quel district, c'était tout au bord de la mer. Depuis, j'ai oublié laquelle, sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement, juste en dessous. Était-ce le Nouveau-Mexique, vers le Cap Horn, vers le Cap Vert? Était-ce sur un archipel?
J'écoute Côte Sud FM 90.3 à Seignos.
Et on retrouve tout de suite après ce petit Serge Gainsbourg sous le soleil exactement notre ami Patrick pour l'info conso du jour.
Et oui, et ça continue avec justement, on avait vu qu'il y a le chauffage, hein, et c'est, la facture en moyenne s'élevait à 2262 euros, c'est-à-dire, comment dirais-je, 11% du budget total du ménage, qui est quand même énorme.
Alors, en sachant qu'une chose, c'est que le chauffage, c'est pas toute l'année.
Non.
Normalement, il y a des périodes
où on est... 4 mois, 4-5 mois. Ouais. 4-5 mois.
Voilà, et donc ça c'est important.
Et oui, c'est important, d'autant plus qu'il y a une ponction sur ce mois élevée, puisqu'il faut répartir cette moyenne sur toute l'année, mais il y a des mois où, alors l'avantage c'est de pouvoir payer d'une manière mensuelle, ce qui répartit les dépenses sur toute l'année, et tenant compte du fait qu'il y ait des mois où l'utilisation du chauffage existe ou n'existe pas, donc la facture existe ou n'existe pas à cette hauteur-là. Ouais. Vous avez d'autres discriminations, hein, par exemple les assurances qui peuvent être pénalisantes, parce que rappelons-nous que certaines assurances sont obligatoires. Une assurance obligatoire, c'est la voiture. Ça, de toute façon, qu'elle roule pas. Hein. Une voiture, même au garage, même sur des briques et autres, sur des cales, mais pas des lingots, hein, je veux dire des briques.
Des briques, c'est-à-dire qu'on n'a plus les roues. Quoi.
On n'a plus les roues, voilà, par exemple. Non, il faut l'assurant quand même, parce qu'on ne sait jamais, un court-circuit, ça prend feu, ça met le feu, etc. Donc, et par contre, vous êtes dans un logement, vous êtes, locataire, et votre propriétaire peut exiger une assurance sur le bien que vous occupez. Donc là aussi, et donc c'est pas forcément donné. Vous avez donc rajoutons parce qu'une couche encore, il y a des cas où vous n'avez pas de garage. Donc vous laissez la voiture à l'extérieur, et ça entraîne, comment dirais-je, des tarifs payants. Ça peut être des tarifs payants. Vous êtes dans une grande ville, votre voiture est dehors, il y a parc-mètre. Et donc, vous devez payer. Et puis, aussi, la voiture, au niveau de la carrosserie, s'abîme de plus en plus.
Et puis, elle est soumise aux intempéries aussi. La grêle, un arbre qui tombe.
Oui, par exemple. C'est vrai. Mais ce n'est pas les mêmes conséquences. Si vous devez avoir un arbre qui tombe sur votre voiture et qu'il faut changer et qui ne valait pas grand-chose, il faut racheter avec pas grand-chose quelque chose qui vaut plus. Donc, ce n'est pas neutre.
Vous avez alors, vous gardez le bois de l'arbre pour vous chauffer.
Oui, voilà, pareil.
En contrepartie.
Dans la voiture. C'est ce qu'on appelle un homme tronc.
Voilà, donc, c'est ça.
Mais ce n'est pas évident. Vous avez aussi les frais bancaires. pour régler des dépenses courantes, il y a 43% des ménages ont recours au crédit renouvelable. Alors ça, le crédit renouvelable, on le déconseille, sauf que quand on ne peut pas faire autrement, on le prend, parce que le taux, comment dire, est assez élevé. Et donc, c'est...
On a une idée des taux ?
Ah ben, les taux renouvelables, ça peut varier entre 10 et 12%. Oh, mais oui, oui, oui. Non, mais... Oui,
ça m'a échappé.
Ben non, parce que c'est quand même élevé. Hein. Ben, les taux renouvelables, quelquefois, votre taux renouvelable, c'est les agios. Hein. Et les agios, c'est étonnant. Hein. En plus, rappelons-nous que les frais bancaires ont, pour 2024, ont sensiblement augmenté. On l'avait dénoncé en disant, c'est sympa, mais il faut peut-être réfléchir. Et donc, ça veut dire que pour eux, eh bien, c'est en moyenne 4% supérieur aux autres. Et les prêts à la consommation, fait que, par exemple, le prêt à la consommation, alors pour redonner exactement le chiffre, et donc je ne m'étais pas trompé, c'est 12%. On emprunte à 12%. Et 12%, quand les salaires sont un petit peu mangés, on va dire comme ça, par l'inflation, en plus, à 12% de pouvoir s'en sortir en empruntant, c'est pas neutre.
Voilà, j'allais dire, comme dit Patoche, c'est pas neutre. C'est son expression, c'est pas neutre.
C'est pas neutre, c'est vrai que faut les payer. Donc, est-ce que la personne a le choix de pouvoir, comment dirais-je, faire ou pas faire cela. Vous avez, pour un peu accélérer, les forfaits mobiles qui sont moins intéressants. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, donc vous prenez les bas de gamme, mais les bas de gamme, on limite le nombre d'appels et on peut limiter aussi le nombre de sur Internet du pouvoir utilisé. Et ça revient plus cher que celui qui a l'illimité. Mais faut-il encore pouvoir payer l'illimité ?
Voilà,
et donc, il faut donc faire attention. Et à ce moment-là, les prix grimpent. Et en plus, comme maintenant, il est difficile de se passer d'un portable, les portables, c'est plus du tout les prix d'il y a 10 ans. Hein ? Alors, le problème, c'est qu'à ce moment-là, la personne a affaire à un portable qui a été reconditionné ou d'occasion. Et à ce moment-là, la personne prend un risque. Parce que la garantie est d'un an, et après un an, vous vous retrouvez, comment dire, quelque chose qui ne vaut pas grand-chose. Donc, on a estimé à 25% en plus par an de ce genre de situation. Vous avez donc les frais de santé, comme on l'a dit, sont beaucoup plus lourds, puisque les plus pauvres grimpent même, puisqu'ils n'ont pas d'assurance complémentaire. C'est ça le problème. Vous avez une assurance, vous avez la sécurité sociale, très bien, mais il y a le reste à charge. Et le reste à charge... Quand vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne prenez pas une complémentaire santé qui va couvrir la différence. Donc, vous vous retrouvez avec des personnes qui vont, dans le cas de figure présent, être obligées de sortir de leur propre poche l'assurance et le complémentaire santé. Ce qui fait que quand on a les moyens, c'est mieux. Si on n'a pas les moyens, vous retrouvez, comment dirais-je... C'est pour ça d'ailleurs que certains renoncent, il y a à peu près une étude qui a été faite, entre 20 et 30% des ménages qui sont contraints de renoncer à aux soins initiaux. Je ne dis même pas les biens de seconde nature. Vous avez les dépenses d'entretien, par exemple, en effet, absence de lave-linge, comme on l'a vu, et puis vous avez les supérettes qui sont plus chères. Donc, vous voyez, tout ça cumulé, du reste, Martin Hirsch, qui avait été coprésident de l'Action Tank, entreprise et pauvreté, fait qu'il a été quand même haut commissaire de la lutte contre la pauvreté. Et à ce moment-là, il s'est aperçu que les 20% les plus modestes, on a estimé que 40 milliards d'euros sont perdus en pouvoir d'achat les concernant, et un chiffre comparable à 29 milliards de minima sociaux distribués chaque année. Donc il y a un déclic, il y a une différence, et cette différence, comment dirais-je, elle est notoire, et donc ça pose problème. Donc la réponse au problème qu'on a soulevé, c'est que les grandes entreprises produisent la double peine quelquefois par ignorance. Elles n'ont pas... Le problème, c'est que quelquefois, vous prenez une mesure, mais les bonnes mesures peuvent être l'enfer. Elles peuvent être complètement négatives par rapport aux conséquences. Et donc, il faut, aider avec des programmes qui compensent ou annulent ces effets en modifiant la marge de leur modèle économique. Et c'est donc là aussi, on s'aperçoit que peut-être qu'il faut repenser la santé les concernant. J'insiste beaucoup, mais le logement social dans les communes peuvent être une réponse. Et puis, les assurances peuvent aussi tenir compte des situations pour moduler un petit peu leur frais. Donc, il faut faire en sorte. Et un autre constat, dans cette situation, c'est généralement la femme qui se retrouve en situation la plus difficile que l'homme. Parce que quelquefois, elle ne travaille pas, il y a un accident de vie, divorce, maladie ou autre.
Oui, les familles monoparentales.
Et les familles monoparentales. Et donc, quelquefois, c'est pas évident, comment dire, de venir leur porter aide par rapport à une situation qui est précaire et qui va pouvoir faire face à des situations difficiles.
Côte Sud FM 90.3, la radio Sud-Aquitaine.
J'écoute Côte Sud FM 90.3.
pauvre chanson, Marie Modiano sur Côte UFM 90.3. On retrouve tout de suite Patrick, info conso, et je crois qu'on va parler un peu de Campinge.
Campinge. Alors, bah oui, parce que c'est. Alors, le camping a eu différentes évolutions. Avant, c'était, on partait le sac au dos avec la tente dans le sac à dos, on partait, c'était du dur de chez dur, hein, et du simple de chez simple. Hein, donc, boîte de conserve, un petit réchaud, un petit duvet, une tente pour s'abriter et tout. Et
mais puis, pleine d'espoir dans les yeux et dans la tête.
Voilà, et quelquefois, d'ailleurs, on fermait les yeux. L'espoir n'était pas au rendez-vous. ça a évolué. Et maintenant, une grande mode. C'est les bungalows, c'est les mobile homes, hein, qu'on dit encore camping. La preuve, sans faire de publicité, à Souston, il y a des campings.
Oui, mais partout c'est, ici.
Mais à Cabreton, à Seignos et autres. Mais c'est des bungalows, quoi, en gros. Avec des dimensions tout à fait intéressantes, avec une terrasse, 40 mètres carrés,
oui, c'est
des chambres,
des petites fleurs et tout.
Sympa comme tout. Ça a un prix. C'est un prix. Et je pense que là, les propriétaires de... Alors, le problème qui s'est posé aussi, c'est qu'il y a un afflux. D'abord, notre région se voit avec un afflux chaque année supérieur à la moyenne d'ailleurs. Ça s'explique aussi. Les gens qui allaient dans le sud-est viennent dans le sud-ouest.
Oui, de plus en plus. Oui.
De plus en plus. Pourquoi ? C'est peut-être aussi plus facile. Peut-être que c'est plus tempéré. Il fait très chaud. Mais il y a l'océan, alors vous me diriez la Méditerranée, mais c'est pas la
c'est
même.
C'est un peu plus humide, moins sec.
C'est moins sec. Donc les gens viennent, hop, et puis il y a aussi, il faut le reconnaître, le bien-être des Landes.
Hein, c'est... On est pas mal. Hein.
Ah, on est bien.
On est pas mal, patron. Hein.
Oui. Ah. Oh. Non, mais ça joue aussi. Donc ce qui fait que les campings qui avaient des prix qui pouvaient paraître raisonnables, là, on montait dans les prix. J'en donnerai qu'un seul. Là, une semaine en pleine saison. Alors, avec un bon mobile home, 40 mètres carrés, trois chambres, clim, etc. Oui, mais 3 200 euros la semaine.
C'est pas donné, non.
Et c'est pas donné. Alors, peut-être que trois couples y allant, ça fait 1 000 euros la semaine pour chacun. Mais enfin, s'ils ont des enfants, déjà, ils
s'occupent.
Il faut qu'ils les mettent sous le camping-car.
Ou alors, ils les mettent dans la tente.
On va leur louer une tente. Donc, ça pose des problèmes. Et c'est vrai aussi que... Alors, il y a aussi des petits accrochages, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme petit problème dans un camping-car ?
Alors,
enfin, pas comme
un camping.
Un mobile home.
Alors moi, j'en vois quelques-uns. Il y a les nuisances sonores.
Oui.
Il y a les... Alors maintenant, ils ont fait un effort là-dessus, mais les parkings, enfin les voitures et les trucs qui se garaient un peu n'importe où en moment et tout ça.
Alors ça, c'est fini. Maintenant, il y a un parking. On met sa voiture, on décharge. Et il y a une voiture électrique qui vient vous chercher pour vous accompagner sur votre mobile home. Donc ça, c'est pas mal.
On peut voir aussi, peut-être on est un peu entassé quand même.
Oui, alors là aussi, tout dépend de l'emplacement qu'on vous a réservé ou choisi. Et ça peut être en effet une proximité qui fait que si vous demandez à quelqu'un à table de vous passer le sel, la personne d'à côté dit « Non, désolé, on n'en a plus.
Ouais, »
C'est bon.
Après, il y a des campings qui ne sont pas très ombragés.
C'est vrai.
Et qui sont en plein cagnasse. Ça, c'est...
C'est pénible.
C'est pénible.
L'avantage...
Pour des maisons, c'est pareil, mais...
Oui. Oui, mais enfin, c'est vrai. Alors, ils ont fait des efforts, justement, d'implanter avec des arbres autour qui donnent un peu d'ombre. Mais c'est vrai qu'en grosse chaleur, les personnes se réfugient à l'intérieur du mobile home. Et à ce moment-là, la clim joue. Le problème, c'est quand même 40 mètres carrés. Si vous êtes 6 avec des jeunes enfants, c'est vrai qu'à un moment donné, faut contrôler.
Voilà, c'est ça.
Contrôler. Et il y a une manière de contrôler ou pas. Alors, le problème aussi, c'est que dans un même camping, vous avez des emplacements qui sont plus ou moins bons. Sonorité, proximité, si c'est ombragé ou pas. Donc là-dessus, quand vous allez louer un mobil-home dans un camping, demandez à voir sur la carte où il se situe, parce que ça peut être aussi très éloigné, par exemple, de la piscine ou du centre commercial qu'il peut y avoir à l'intérieur, ou du restaurant. Et à ce moment-là, alors, l'avantage aussi, c'est que maintenant, beaucoup de campings sont fermés à la circulation. C'est-à-dire que les enfants ont une sécurité, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les surveiller. On ne sait jamais ce qui peut se passer à l'intérieur du camping. Mmh. Mais enfin, si un gosse a son vélo, c'est vrai que c'est plutôt sympa de pouvoir aller dans le camping et de pouvoir l'utiliser.
Alors après, plus ou moins éloigné du resto, du magasin, de la piscine, bon, on est en vacances, on peut marcher 5 minutes de plus.
Oui, mais si vous avez pris votre belle-mère...
Ah, eh ben elle va pas à la piscine.
Voilà, ou elle va dans la piscine. Non, ça y est.
On rigole.
On rigole, bah, bien sûr.
On embrasse toutes nos belles-mères.
Voilà, toutes, même celles qui ne le savent pas. Donc, alors là aussi, il peut y avoir des agréments. La propreté.
Oui, les sanitaires communs ça,
ou, ouais. Ou même quand vous allez avoir votre mobil-home, vous apercevez qu'il n'a pas été nettoyé, il n'a pas été fait.
Oui, parce que dans les mobil-homes, il y a aussi déjà des
douches. Oui, alors, parce que vous avez l'option... ou vous faites vous-même le ménage, ou vous confiez le ménage à l'entreprise, bon, que vous payez, bien entendu. Mm. Alors, ceux qui ont les moyens se diront, bon, on ne va pas s'enquiquiner, on va laisser le ménage se faire en payant. Ceux qui doivent le faire, ça les enquiquine. Donc, je ne suis pas sûr que le ménage soit impeccable. Mm. Donc, c'est vrai que ça laisse des désagréments quelquefois possibles. Vous avez... Alors, d'autres problèmes, vous avez des mobil-homes qui sont conçus avec une sécurité. Mmh. Par exemple, les marches à l'intérieur, le sol glissant, ce qui fait que vous pouvez, vous retrouver avec un problème à ce niveau-là qui ne va pas être neutre.
Bah, je pense qu'il y a des commissions de sécurité qui pensent non,
oui,
quand même.
Oui, tout à fait. Mais à ce moment-là, ce qu'il faut faire très attention, c'est de pouvoir, quand vous allez prendre votre mobil-home, être quand même très attentif à ce qu'il y a à l'intérieur. Le problème aussi, c'est quelquefois vaisselle cassée.
C'est la fessée.
Exactement. Mais simplement, vous ne pouvez pas trouver qui. Puis on ne va pas encourager... Les fessées. On est contre la fessée, donc on ne va pas l'encourager. Non, mais je veux dire que vous louez pour 6 personnes, vous en trouvez 4 bols. C'est manque de bols, c'est le cas de le dire. Mmh. Vous en avez 4 au lieu de 6. Donc, il faut quand même vérifier. Donc on a intérêt à faire en sorte que les prestations qui sont affichées quand vous avez signé votre contrat soient respectées. Quelles sont justement les prestations pour lesquels, généralement, on signe et qu'il peut y avoir des faillances?
Par exemple, des accès Internet.
Oui, bien sûr.
Accès Internet.
Couverture Internet inefficace.
Voilà. Des accès, et bien après, il y a toutes les... Alors, je ne sais pas si ça rentre là-dedans, mais il y a toutes les animations qui peuvent être proposées, parce que maintenant, les campings ou les endroits comme ça...
Le camping, hein, au sens
camping,
large.
Voilà, il y a les piscines, il y a des concerts, il y a des jeux, il y a des animations...
Des apéros...
Il y a des fois des apéros communs, collectifs, qui peuvent être reçus, ou des tournois de pétanque, des trucs comme
boule.
Ça. Voilà, c'est ça. Après, Internet, l'électricité, c'est normal d'avoir l'électricité. Il n'y a pas besoin de signer quand même un truc spécial pour avoir l'électricité.
Non.
Électricité, ça paraît normal. Je ne sais plus.
Non, mais c'est déjà bien, hein, parce que c'est vraiment le type même de choses à faire constater à son arrivée. Encore une fois, la vaisselle, qui est suffisante pour la location du mobil-home, hein. Là, je rappelle, quelquefois, vous pouvez très bien choisir un mobil-home avec 2 chambres et venir seul, hein, entre guillemets, parce que si vous avez des amis qui viennent, n'oubliez pas quand même que vous avez la taxe d'hébergement qui revient à la commune, la taxe touristique.
Et la taxe de séjour.
La taxe de séjour, exactement. C'est la taxe de séjour que vous devez payer en fonction du nombre de personnes, mais les enfants sont, ne doivent pas la payer. Vous ne payez pas pour les enfants.
Oui, je crois que c'est à 12 partir
ans.
De...
12 ans, 12 ans, c'est ça ouais. 12 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc là, vous devez faire en sorte que ce qui a été annoncé dans l'annonce de location soit respecté. Et vous avez raison, il y a plein de petites choses. Par exemple, la piscine ne fonctionne pas. On a eu un problème avec le moteur de filtration. Donc, on a dû arrêter la piscine. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là?
Eh bien...
Vous avez quand même plongé.
Je fais pipi dans la piscine, de colère.
Pas plus.
Oui, non. Et mais qu'est-ce qu'on fait?
Ça change beaucoup.
En respect, vous m'avez vendu du rêve.
Oui. Et surtout, alors c'est pas vendu du rêve, mais votre prestation n'est pas, comment dirais-je, à la hauteur de ce que vous m'avez, que j'ai payé. Il y a une prestation de service. Et donc là, c'est carrément dans la loi. La prestation de service doit être honorée. Et bien à ce moment-là, vous pouvez très bien demander un dédommagement financier par rapport au fait que, par exemple, vous êtes privé de piscine.
Alors, ceci dit, ça peut arriver qu'une piscine, elle tombe en panne du jour au lendemain. Hein, c'est de la mécanique et de l'entretien. Après, ben, c'est à l'exploitant de faire en sorte que ça soit réparé soit dans la journée ou au moins... voilà.
Il doit prendre une assurance.
Oui, mais il faut que ça soit réparé pour pouvoir... Je sais pas, dédommager, faire une petite offre commerciale pour les 1 ou 2 jours de désagrément, et puis après la piscine, elle fonctionne.
Par contre, si il est en incapacité, parce que généralement les personnes ne restent pas très longtemps, ils prennent une semaine.
Si sur 5 jours, il y en a 2 déjà de morts.
Voilà. Alors, c'est à vous de vous renseigner auprès du responsable du camping pour savoir. On constate à l'instant T. Que l'offre de service n'est pas réalisée à travers une piscine, quand est-ce que vous envisagez qu'elle soit opérationnelle et vous pouvez à ce moment-là dire, écoutez, moi, je pars et donc je demande à être remboursé. Tout de suite. Voilà. Alors là, par contre...
C'est pas toujours... C'est un peu casse-pied.
Oui, parce que le problème, c'est qu'une fois que vous êtes parti, qu'est-ce que vous faites?
On n'a pas forcément une solution.
Exactement. Donc, alors c'est vrai que...
Et puis les gamins, ils vont dire...
On est bien. Et on va faire du vélo, jeu de boule. Il y a aussi des endroits où on peut, comment dire, jouer.
Il y a du tennis, il y a du basket, il y a des petits mini-golf.
Ouais.
Maintenant, il y a des
trucs... Ah non, mais c'est splendide, hein.
Des petits street foot là, ou foot garden là, enfin des petits terrains de foot comme en synthétique là.
Oui. Alors, le conseil qu'on donne généralement, c'est de trouver un règlement à l'amiable.
Oui,
c'est quand
un bon
même...
conseil.
Non, mais c'est quand même le mieux pour tout le monde parce que c'est vrai que sinon on n'en sort plus. Hein. Il peut y avoir aussi des autres cas de figure qui existent, c'est les catastrophes naturelles.
Et on a connu ça pas plus tard que l'année dernière.
Hein. Et oui, avec les feux de forêt.
Avec des choses graves quand même.
Tout à fait, des feux de forêt où à ce moment-là, il a fallu évacuer le camping.
Mais grave autant pour les exploitants que pour les plaisants.
Ah ben bien sûr.
Les exploitants,
ils avaient les larmes pour pleurer, n'éteignaient pas les incendies, loin de là même. Donc vous avez un problème, c'est qu'est-ce qui se passe, les incendies, les tempêtes, les inondations aussi, hein, tout ce contraire. Donc alors il existe alors pour le client. Il existe justement des solutions pour récupérer l'argent qui a été payé. Alors, si le séjour a été annulé par le professionnel, pas de problème. La procédure est enclenchée par le propriétaire du camping.
Hein, donc on ne perd rien.
Et parce que lui-même est couvert par une assurance. Contre les cas de catastrophes naturelles. D'où d'ailleurs l'intérêt, en fonction des circonstances, c'est le préfet qui déclare catastrophe naturelle, ce qui s'est passé dans telle ou telle ville ou endroit. Et donc ça, c'est couvert par des assurances. Donc c'est quand même important. Si par exemple, votre séjour a été raccourci par une catastrophe naturelle, à ce moment-là, vous pouvez très bien demander un remboursement pro rata du nombre de jours ou fait ou non fait. Si vous êtes resté 4 jours sur 7, vous demandez à être remboursé des 3/7 de la somme payée. Attention, donc, mais attention, si vous annulez par votre vous-même, par votre proche-chef, aucune somme ne sera versée. Donc il faut que ça soit un accord avec le propriétaire pour que justement ça puisse se faire. Et alors, par contre, c'est vrai aussi que vous avez peut-être vous-même souscrit l'assurance annulation.
Oui, donc, ça c'est donc, de plus en plus proposé, ça.
Voilà,
c'est, même alors, sur les concerts maintenant.
Oui, parce que l'artiste peut très bien venir, pas venir. Les intempéries ont fait que là où il devait se reproduire, c'est
oui,
plus.
Il est malade.
Il est plus possible. Lui, il tombe malade. Enfin, beaucoup de choses. Donc attention. Vous pouvez aussi avoir sur votre carte bancaire une clause vous couvrant.
Oui, c'est vrai.
Je rappelle que quelquefois, alors ce n'était pas aussi de la carte, hein, si c'est une carte gold ou pas, la prise en charge n'est pas la même. Mais à une certaine époque, les gens prenaient des assurances concernant le ski pour les forfaits. Et ça, donc, il y avait un accident. Et là, qu'est-ce qui se passait? La carte gold prenait en charge. Et donc, ce n'était pas la peine de prendre une assurance par ailleurs. Vous avez les biens. Alors, autre problème. Et qu'est-ce qu'on fait si les biens sont endommagés?
Si les biens. Les biens.
C'est-à-dire que votre voiture, les biens personnels sont endommagés. Qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est sa propre assurance, là.
Voilà. C'est-à-dire que là, vous avez alors certaines assurances, peut-être pas toutes, et en fonction du contrat que vous avez signé, eh bien, même si ce n'est pas chez vous, votre assurance multirisque vous couvre ailleurs.
Bah oui.
Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que donc prévoir aussi les factures, parce qu'ils vous seront demandés des factures pour pouvoir.
Oui, c'est comme quand on a un accident aussi sur la route, que ce soit à Marseille. Bonjour Eric, que ce soit à Bordeaux ou à Seignos ou à Paris.
Bonjour Serge. non, mais c'est important. Donc là, il faut se rapporter à la liste des biens pouvant être remboursés. Parce que c'est en fonction des assurances, ce n'est pas toujours la même chose. Donc on peut évaluer les sommes par rapport aux biens achetés et à ce moment-là, les fournir à l'assurance. Et prouver, comment dire, qu'ils ont bien été endommagés lors d'une tempête, inondation ou incendie. Donc, et d'autant plus que je réinsiste beaucoup, veillez à ce que la préfecture, il y ait eu un arrêté préfectoral qualifiant bien la situation de catastrophe naturelle. Parce que là, les assurances sont obligées de couvrir. Mais le problème qui se pose, c'est qu'avec l'évolution climatique, inondation, incendie principalement.
Glissement de terrain.
Terrain qui, si elle est de l'argile, sèche et les fondations sont
mal
problématiques, malmenées, eh bien, voire justement. Alors, le problème, c'est que. Littoral.
Le recul du retrait de côte.
Eh oui, le retrait de côte, vous avez à ce moment-là des assurances qui peuvent jouer ou ne pas jouer. Et donc faut quand même tout de suite faire en sorte que votre déclaration puisse être faite en ligne de manière à pouvoir activer votre assurance.
Et on rappelle aussi quand même que ce soit en camping-car ou même en tente maintenant, parce qu'il y a quand même des gens un peu en tente, tout ça, on ne peut pas aller n'importe où.
Non. Ah oui.
Il faut faire un petit truc là-dessus parce que.
Il faut
les
rappeler.
Ouais, j'ai un camping-car, c'est super, on va faire les fous.
Liberté.
Liberté, totale liberté. Youhou. Ouais. Eh ben non, pas youhou.
Non. Vous avez maintenant des villes qui prennent des arrêtés où les camping-cars peuvent stationner là où ils veulent, sauf à certaines heures. Par exemple, de 20h à 6h ou 7h du matin, ils doivent être dans des endroits réservés justement aux camping-cars. Et vous devez payer. Parce que n'oublions pas aussi, c'est qu'un camping-car, qu'est-ce qu'il fait pour se fournir en eau? Qu'est-ce qu'il fait pour se fournir en électricité?
Sur ces aires-là, il y a des points d'eau.
Eh oui. Donc, il est obligé de faire appel à l'infrastructure qui était mise en service par la commune.
Donc, payée par les contribuables. On participe.
Ça a beaucoup changé. Alors, à un moment donné, beaucoup disaient, moi, je pars en camping-car. mes vacances ne me coûtent rien, la bouffe, l'essence.
Ouais, ouais.
C'est fini.
C'est fini, ça, depuis un petit moment. Quand
oui,
même.
D'ailleurs.
Et on rappelle aussi qu'en forêt, c'est interdit aussi.
Exactement. Exactement. Pourquoi ?
Eh ben parce qu'on ne fait pas des barbecues en forêt, on fait pas les flammes qu'il peut y avoir sur des moteurs peuvent entendre de fortes sécheresses, et puis les sentiers, et puis on ne fait pas n'importe quoi dans la forêt.
Tout à fait, et puis on ne fume content. Pas, on,
oui,
on
voilà.
respecte la nature,
voilà.
et ça revient beaucoup moins cher à la collectivité.
Tiens, ça aussi, ben dans les structures d'accueil de Mobilhome, il faut vérifier aussi peut-être, alors ça après c'est du domaine de la responsabilité de chacun, responsabilité individuelle, les fumeurs, justement. Parce que s'il y a pas, s'ils fument dehors et qu'il n'y a pas installé des gros... où on peut mettre les mégots avec des gros pots de sable ou autre...
Alors, je crois, enfin, j'en suis pas sûr à vérifier, mais quand je dis je suis pas sûr, c'est que à 90%, je le pense, je crois qu'il est interdit de fumer.
Dans l'enceinte...
Dans l'enceinte d'un camping. Vous pouvez fumer dans votre
On peut mettre le feu dans le mobilhome, c'est super.
Ça
cool.
c'est bon, c'est un appartement quoi.
Ouais.
C'est un lieu de résidence.
C'est une privatisation.
Mais je crois maintenant que
à l'extérieur.
Il est interdit de fumer dans l'enceinte du camping.
D'accord. Oui.
Et c'est bien. D'abord pour deux raisons de sécurité. La première, c'est ce que vous avez dit. Mais la deuxième raison, c'est aussi montrer aux enfants qu'on ne fume pas.
Oui,
l'exempérité.
Ça, oui.
Et c'est une bonne chose que la personne, si vraiment c'est un accro à la cigarette, fume discrètement chez lui, mais pas en public.
Ou à l'extérieur de l'enceinte.
Ou à l'extérieur de l'enceinte.
Voilà.
Oui, tout à fait.
Mais c'est sûr que vous jetez un mégot ici en plein été sur des aiguilles de pin blanc bien sèches. Moi, je vous dis que là, on fait des moules comme ça, c'est très bon. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle.
Sur aiguillette.
Oui, sur des aiguilles de pin. Ouais. Ouais, c'est ce qu'ils font ça en Charente et en Charente-Maritime. Ouais. C'est très, très bon. Le mouclade.
Mouclade.
Voilà, le mouclade. Mais là,
elle monte au nez.
Oui. Là, vous allez avoir une mouclade merdouillade.
Ça va. La mouclade monte. Tonner.
Voilà, c'est ça, ça va vous problème. Mettre le feu partout.
Ouais, ouais. Non, mais c'est quand même important de respecter des règles. Alors, dernier cas de figure, enfin un dernier cas de figure,
oui,
c'est au cas où le problème se rencontrait en Europe, hein, parce que vous n'allez pas qu'en France.
Ah, oui.
Alors, il faut savoir, comment dirais-je, il faut demander conseil au Centre européen des consommateurs, le CEC, qui est un organisme spécialisé dans la résolution des litiges transfrontaliers. Donc, parce que chaque pays n'a pas forcément ces mêmes règles. Donc,
ah oui, il n'y a pas d'uniformisation.
Non. Ben non.
Oui,
donc c'est quand même important de...
L'Europe n'est pas uniformisée, donc
pas
c'est
encore,
normal.
Mais ouais. Espérons que ça le devienne de plus en plus. Et donc, à ce moment-là, là aussi, avant d'annuler votre location à l'étranger, voyez bien, comment dire, quelles sont les règles qui sont régies.
D'ailleurs, à l'étranger, est-ce qu'on a le droit de faire du camping sauvage et du mobilhome, du camping-car sauvage?
Tout dépendra. Alors, moi, je pense de moins en moins. De moins en moins. Alors, le truc aussi, c'est quelquefois, pour avoir un peu de liberté, c'est d'aller rendre visite dans une ferme au propriétaire en disant « Est-ce que vous me donnez l'autorisation de... » Alors, bon, si le gars vous refile de l'eau ou de l'électricité, vous faites en sorte quand même de dommager. Il n'y a pas de raison.
Bah oui, on fait un bon goloton.
Mais je pense que le camping européen, concernant les camping-cars, tend à devenir à peu près la même chose. Et d'ailleurs, il y a même quelquefois des villes qui interdisent le passage. Alors, peut-être parce que justement, les rues ne sont pas adaptées à ces monstres maintenant que l'on voit arriver. Parce que,
Remarquez, il y a des fois, il vaut mieux pas faire de camping sauvage ou de camping-car sauvage
dans
certaines contrées parce que si on se retrouve tout seul au milieu de...
Voilà. où est le fusil?
Et puis, il y a quelques missiles en Europe en ce moment.
Par exemple, voilà. Oui, ça, c'est pas conseillé. Avant-dernière recommandation. vous pouvez, quand vous êtes, comment dire, dans un camping, on peut vous facturer la Wi-Fi. La Wi-Fi. Et donc, si on vous facture la Wi-Fi, c'est peut-être pas compris ou dans votre tête.
Ouais.
Et donc, et c'est pas donné, hein, par contre. Ils peuvent très bien vous facturer 5, voire 10 euros par jour la Wi-Fi. C'est à vous aussi de vous renseigner parce que, à ce moment-là, c'est pas la même note, hein, au départ. Enfin, puisque je crois que l'émission va aller à son terme, vous avez, comment dirais-je, les chèques vacances qui peuvent être remboursés dans le cas où vous avez payé en chèque service, en chèque vacances, la NCV. Donc, à ce moment-là, c'est avec le professionnel que le consommateur devra négocier pour retrouver ses fonds. Hein. Donc, parce que vous pouvez très bien, comment dirais-je, être déçu et souhaiter le remboursement. Et le chèque vacances, c'est valable en France et des destinations d'Union européenne, existe en deux versions, classique en papier, mais aussi maintenant, il existe en carte. Et donc, vous payez comme si c'était une carte bancaire. Mais là aussi, si vous avez un problème et que vous avez payé en chèque vacances, à ce moment-là, il faut négocier le remboursement parce que c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une somme reçue par un chèque bancaire. Voilà, on a fait un peu le tour.
Alors, vous aurez compris où va passer ces vacances. Patoche, Patrick, voilà. Cet été.
Et je ne suis pas le seul. Mais je ne dirai pas où.
Il va tester tous les airs de mon bilan.
Je vais demander à Radio Côte-Sud-FM de prendre en charge le fait d'avoir essayé tous les camping-cars et tous les mobil-homes de la région.
En revanche, qu'on soit diffusé dans tous les camping-cars de France et de Navarre.
Bon. C'est
allez,
bien.
On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Info Conso avec des sujets à découvrir à ce moment-là. Patrick aime bien laisser planer le mystère. Merci Patrick, à très vite. Restez à l'écoute de Côte Sud FM 90.3. Prenez soin de vous et surtout des autres.
Si vous voulez tout savoir... Sommet rendez-vous avec Patrick dans son émission bimensuelle le lundi de 11h à midi. Info Conso, c'est sur Côte Sud FM 90.3.
J'écoute Côte Sud FM 90.3 à Seignos. I am a tourist. I take photographs. I am a tourist. I never get enough. I'm a tourist. I'm told what to do. I am a tourist.